Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Professeur Carpentier, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir au studio de Canal Académie. J'avais eu le plaisir de vous recevoir et le plaisir et l'honneur de vous recevoir deux fois. La première, c'était pour évoquer la prouesse technique et médicale de la première greffe du visage. La deuxième fois, c'était suite au prix Lasker 2007 qui couronnait la révolution médicale dont vous étiez à l'origine, à savoir les bioprothèses cardiaques. Nous en reparlerons également au cours de cette émission de ces bioprothèses cardiaques. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous recevoir pour une nouvelle avancée technique, médicale et humaine extraordinaire. Vous nous aviez déjà glissé quelques mots lors de notre dernière rencontre. Il s'agit du cœur artificiel. Vous en rêviez depuis longtemps. Aujourd'hui, ce rêve prend forme. Ce cœur a été présenté à la presse fin octobre 2008. Alors, le projet existait depuis longtemps. Le nerf de la guerre, c'est bien sûr les finances. Comment avez-vous finalement réussi à convaincre les investisseurs à participer à ce projet ambitieux qui s'est étalé sur plusieurs années ?
J'en rêvais, mais surtout, j'ai travaillé sur ce sujet depuis très longtemps, en effet, depuis plus de 15 ans. La genèse de cette aventure, parce que nous verrons ensemble que c'est une aventure, la genèse de cette aventure, c'est comme toujours un problème qui se pose à un médecin lorsqu'il voit un malade et qu'il n'a pas de ressources pour ce malade, qu'il n'a pas de ressources thérapeutiques. En médecine, vous savez, quand on voit mourir sous ses yeux un homme de 45 ans et qu'on n'a rien pour lui sauver la vie, c'est quelque chose qui est bouleversant et qui vous stimule comme un véritable aiguillon. Et ces circonstances, qui sont finalement l'infarctus, ce qu'on appelle l'infarctus du myocarde, l'infarctus du cœur, ou bien l'insuffisance cardiaque terminale, qui sont les causes principales de mortalité actuelle, eh bien, ça vous stimule et ça m'a stimulé. Ça m'a stimulé d'autant plus que j'avais dans mes possibilités un certain nombre de réalisations antérieures qui me permettaient de penser que je pourrais peut-être contribuer à résoudre un certain nombre de problèmes qui se posaient encore.
Donc, effectivement, vous évoquez dans les années 60 la révolution avec les bioprothèses cardiaques. Vous n'étiez pas seul à travailler sur ce projet, mais vous l'avez encore avancé. Voilà. Ce projet aujourd'hui de cœur artificiel, puisque maintenant nous avançons dans le temps, et c'est un projet exclusivement français.
Alors, le cœur artificiel, vous avez prononcé le terme de rêve tout à l'heure, hein, et il était particulièrement approprié. C'est un rêve que beaucoup de chirurgiens cardiaques, de chercheurs, ont eu dans les 30 ou 40 dernières années. Comment faire en sorte de remplacer un cœur qui a cessé d'exister, cessé de remplir sa fonction. Alors, premièrement, il faut dire que le remplacement total du cœur, ce dont on parle aujourd'hui, hein, ce n'est pas l'assistance ventriculaire ou l'assistance circulatoire qui est souvent confondue avec le cœur artificiel. Là, nous parlons véritablement d'une prothèse destinée à remplacer totalement le cœur. Alors, il existe une alternative thérapeutique au cœur artificiel total que je viens de décrire, c'est la transplantation cardiaque. Dans la transplantation cardiaque, on enlève le cœur malade et on le remplace par une greffe cardiaque. Et cette transplantation cardiaque, elle a de bons succès, enfin, elle a des bons résultats. Mais pourquoi alors le cœur artificiel s'il y a une alternative ? Ben, pour une raison simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de malades qu'il n'y a de donneurs, qu'il y a beaucoup plus de cœurs malades qu'il n'y a de greffons disponibles, premièrement. Et la deuxième raison, c'est que la greffe cardiaque, ça n'est pas une histoire toute simple. Ça nécessite de prendre des médicaments anti-rejet. Et ces médicaments anti-rejet ont quelquefois des effets délétères qu'il faut essayer d'éviter. Donc c'est la raison pour laquelle, comme je le disais tout à l'heure, on se trouve de temps à autre et trop souvent en face de ce dilemme. Un malade est en train de mourir, on aurait besoin sur l'étagère d'avoir une prothèse pour remplacer son cœur et nous n'avons rien.
Avant d'en venir aux aspects techniques, et nous en parlerons longuement, je voudrais simplement revenir sur le fait que ces bioprothèses cardiaques ont été développées aux États-Unis. Là, ce cœur artificiel sera-t-il développé uniquement en France, puisque les investisseurs sont, et je crois que c'est votre volonté, essentiellement, exclusivement français?
Alors, bon, vous touchez là une corde sensible. C'est vrai que je suis un peu cocardier et fier de l'être, d'ailleurs, en plus. Mais pas seulement aux États-Unis, mais également en Allemagne, mais également au Japon. C'est vrai que depuis pas mal de temps, même des décennies, des gens essaient de trouver une solution pour remplacer le cœur, une prothèse pour remplacer le cœur. Le problème, c'est qu'ils ont à peu près tous buté sur une complication qui est assez simple à comprendre. C'est que quand le sang rencontre un matériau étranger, qu'il ne reconnaît pas comme lui-même, comme soi, eh bien, il a tendance à en fabriquer
des caillots.
Et ces caillots, c'est véritablement la pierre d'achoppement du cœur artificiel et d'une manière générale, d'ailleurs, des valves cardiaques.
Des premières valves.
Voilà.
Oui.
Et c'est là où, si vous voulez, je pensais avoir une carte à jouer, c'est-à-dire de dire, bon, après avoir analysé vraiment les inconvénients qu'avaient rencontrés mes prédécesseurs, je me suis dit, si on fait un cœur non pas purement mécanique et uniquement mécanique, mais également biologique, eh bien, on doit pouvoir résoudre ou du moins atténuer grandement ce problème.
Alors, qui est à l'origine de la conception de ce cœur? Puisque lorsque l'on s'informe sur ce cœur artificiel, on voit que l'entreprise qui vous abrite, c'est EADS, qui est plutôt spécialisée dans l'aéronautique.
Oui, alors, si vous voulez, j'avais entre les mains une solution qui était le matériau qui me paraissait idéal, puisque j'avais démontré, grâce à ce matériau, qu'on appelle des matériaux bioprothétiques que j'ai développés, je savais que ce matériau ne produisait pas de caillots. Il produit si peu de caillots que quand on fait des valves dans ce matériau, on peut même se passer d'anticoagulants. Et puis, étudiant le problème, je me suis aperçu que ça n'était qu'un élément de la problématique. L'autre élément qui manquait aux expériences qui avaient été faites par d'autres, c'est d'être capable de faire une prothèse qui ressemble complètement au cœur humain, et en particulier dans la physiologie, la régulation, les modes, les comportements, etc. Et par conséquent, ce deuxième aspect qui conditionne également le succès de cette prothèse, eh bien, là, j'avais besoin véritablement d'un partenaire industriel. Parce que les valves, je les avais, le matériau, je les avais, mais le cœur, je ne l'avais pas encore, et en particulier ce cœur dont je parle, c'est-à-dire un cœur avec toutes les caractéristiques du cœur humain normal.
Donc on y retrouve des électroniciens, des ingénieurs, des médecins aussi, j'imagine, comme vous.
Alors là, j'ai écourté ma réponse parce qu'il faut que je mentionne Jean-Luc Lagardère. Donc j'ai été voir Jean-Luc Lagardère et je lui ai dit, c'était au temps où il s'occupait beaucoup du Paris Saint-Germain, n'est-ce pas ? Je lui ai dit, je les vous voyais pendant quelques minutes seulement, parce que tout de suite, tel qu'il était, il m'a tutoyé. Donc on s'est tutoyé, on est devenus très amis. Et je lui ai dit, bah, plutôt que de soutenir une équipe de football, pourquoi EADS ne soutient pas un chercheur et la recherche? Et là, très très vite, il s'est très vite pris au jeu. Il m'a ouvert les portes de EADS sans bruit, parce que nous avons décidé l'un et l'autre depuis le début que nous travaillerions dans le silence et la confidentialité complète.
Pourquoi ? C'était pour vous prémunir en cas de problème, justement ?
Non, pas en cas de problème, mais je pense que le tapage médiatique avant que la solution ait pu être trouvée ne me paraît jamais fécond. Et par conséquent, bref, je n'aime pas beaucoup vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Alors, c'est un principe, chacun a sa manière. Moi, ma manière, c'est plutôt de travailler dans le silence et puis de surprendre un jour qu'on a atteint finalement le résultat qu'on s'était fixé.
Alors, on le décrit comme étant, ce cœur artificiel, une petite coque ovoïde de matière synthétique blanche, truffée d'électronique et de biomatériaux, vous en parliez à l'instant, qui palpite bien sûr au rythme de 90 pulsations par minute, 24 heures sur 24, bien entendu. J'imagine qu'il doit y avoir pas mal de contraintes, des questions de poids, du matériel, de
l'ensemble. Les cas, c'est joliment dit, votre description est presque poétique. Bon, il y a beaucoup de contraintes.
Oui, quelles sont les contraintes?
Bon, si vous voulez, l'originalité de la partie non matériaux, c'est-à-dire de la prothèse elle-même, l'idée maîtresse que je me suis donnée, c'est de dire je vais essayer de copier, mais de copier la physiologie du cœur humain, la régulation, la manière dont un cœur humain répond aux besoins.
Pour éviter les caillots, par exemple?
Pas seulement pour éviter les caillots, mais c'est vrai que pour éviter les caillots, ça y participe. Mais c'est aussi pour donner aux malades une vie normale. Parce qu'aller faire une prothèse pour que la vie ne soit pas normale, ça ne m'intéresse pas. Et par conséquent, dans un premier temps, j'ai étudié avec beaucoup de précision ce qu'était la contraction cardiaque. Et la contraction cardiaque, ce n'est pas simplement une pompe.
Ce
n'est pas simplement un diaphragme qui brusquement, n'est-ce pas, se déplace, comprime le sang et l'envoie dans la circulation. La contraction cardiaque, c'est très particulier. C'est ce qu'on appelle un système viscoélastique. C'est-à-dire qu'elle se fait avec une certaine progressivité, avec une certaine élasticité. Et ce caractère viscoélastique explique que l'hémodynamique, c'est-à-dire la fonction, soit optimale pour répondre aux besoins de l'organisme.
Comment on l'alimente, ce cœur artificiel? J'imagine qu'il a une durée de vie.
Alors, vous êtes déjà à l'alimentation.
Ah ben oui.
C'est généralement, on termine par ça, parce qu'en matière d'alimentation, j'ai décidé que je n'avais pas d'idée particulière. Donc, j'ai donné comme instruction à notre groupe de ne pas innover sur ce point. L'alimentation, c'est une alimentation électrique, puisque le cœur est animé par des pompes, par donc des micromoteurs qui animent des pompes, et l'alimentation de ces micromoteurs sont des micromoteurs électriques. Alors, on a une batterie à l'intérieur du corps, parce que je voulais aussi que tout soit mis à l'intérieur, et non pas comme les cœurs artificiels de mes prédécesseurs, avec une console extérieure qu'il faut traîner avec soi ou dans une petite valise, etc. Vous voulez que tout soit à l'intérieur, que le malade puisse avoir une vie normale, qu'on ne puisse pas le repérer dans le métro en train de porter un appareillage qui fait du bruit. Et par conséquent, il y a une batterie interne, et portée autour du cœur, il y a des batteries de recharge de la batterie interne. Donc voilà, si vous voulez, comment les choses se portent, au double sens du terme. Et voilà ce que nous utilisons.
Pardon d'avance si ma question vous paraît bête. Vous parliez de rejet lors de transplantation. Est-ce que pour un cœur artificiel, il y a des risques de rejet?
Non, justement, c'est l'avantage énorme de ces matériaux. À partir du moment où on utilise des matériaux bioprothétiques.
Ce que vous avez utilisé pour les, justement,
voilà,
les
pour les vases. À partir du moment où on utilise ces matériaux bioprothétiques qui ont été traités chimiquement pour éviter le rejet immunologique, il n'y a pas de rejet. Il y a très peu de risques de coagulation et il n'y a pas de rejet.
Donc a priori, très peu de traitements après...
Presque pas de traitement et j'espère même pas de traitement du tout.
Vous avez fait des simulations sur ordinateur. Quand est-ce que viendront les essais cliniques? J'imagine.
Alors,
que
ça,
vous avez
un cahier bonne, des charges. C'est une très bonne question, comme on dit, parce que là aussi, on a innové. Dans ce cœur artificiel, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a fait des innovations méthodologiques, en plus des innovations techniques. Alors, l'innovation méthodologique, c'est premièrement le recours à une grande industrie comme EADS, qui me donnait tous les moyens dont j'avais besoin au moment voulu. Et la deuxième innovation, c'est de tirer avantage du travail avec ces équipes et de faire beaucoup de simulations. Beaucoup de choses sont faites, de tests sont conduits par des simulations. La simulation, c'est la grande affaire, et ça, c'est la grande affaire, et c'était une révolution à l'époque, parce que la plupart du temps, quand on développait, nous, une nouvelle prothèse, eh bien, on essayait de mettre ça chez l'animal. Les animaux, ça coûte cher, ça fait pleurer un certain nombre d'organisations, mais c'est surtout qu'on peut en faire très peu. Tandis que les simulations, c'est illimité. Vous changez une variable et vous avez immédiatement la réponse de la prothèse à ce changement de variable. Alors, très vite, je me suis mis à travailler avec ces simulations, c'est-à-dire qu'on a construit des simulateurs de l'organisme humain, du réseau circulatoire. J'ai même poussé les choses à mimer des situations pathologiques. Par exemple, je sais comment notre prothèse réagit quand on a l'équivalent d'une hémorragie, quand on a l'équivalent d'un accident,
oui,
quand on a l'équivalent d'une embolie pulmonaire. Et c'est là qu'on peut tester, si vous voulez, le caractère parfaitement physiologique de ce cœur. C'est parce qu'il réagit exactement comme un cœur normal. Un cœur normal, vous avez une hémorragie tout d'un coup, il se met à accélérer. Eh bien, ma prothèse, on lui fabrique par simulation une hémorragie et elle se met à accélérer.
Alors, je reviens à ma question. Est-ce que vous vous êtes fixé une date butoir pour le jour où vous arriverez à faire cette opération sur un patient ?
C'est un secret absolu. Évidemment, on est assez pressé de pouvoir mettre chez l'homme, mais on ne le fera pas n'importe comment.
Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de concurrence. On en parlait rapidement en préparant cette émission. Vous n'êtes pas le seul à travailler sur ce cœur artificiel.
Vous savez, dans cette recherche, l'important, c'est la sérénité. L'important, c'est le sérieux. Et bien sûr, on regarde ailleurs ce qui se passe. Mais pas pour nécessairement accélérer, pas pour être le premier. J'aime beaucoup une phrase qui a été prononcée par le professeur Alpern autrefois, qui dit que l'important en médecine n'est pas d'être le premier à essayer, c'est d'être le premier à réussir. Et je souhaite être le premier à réussir.
Est-ce que cette question du cœur artificiel a été débattue, par exemple, au Comité consultatif national d'éthique ?
Oui, bien sûr. Ça fait longtemps que j'ai approché non seulement les comités d'éthique, mais également ce qu'on appelle l'APSAP, qui est l'agence des nouveaux médicaments et des nouveaux dispositifs médicaux, de façon à très rapidement dire, voilà, un jour où je vais venir vous voir pour dire le cœur artificiel est prêt, eh bien, je viens vous voir 2 ans avant pour qu'on puisse discuter ensemble quelles sont les conditions que vous exigerez à l'époque. Et je dois dire que je veux rendre hommage au directeur général de l'APSAP, car je pensais, un peu comme j'avais vécu aux États-Unis, que ces agences étaient un peu, si vous voulez, à essayer de mettre des bâtons dans les roues des chercheurs. Et le directeur général de l'APSAP m'a dit, mais monsieur Carpentier, je suis là pour vous aider, je ne suis pas là pour vous mettre des bâtons dans les roues. Et je vous remercie d'être venu me voir 2 ans avant pour qu'on puisse travailler ensemble.
Alors on travaille. Vous étiez pris comme de l'avance, 2 ans avant.
Oui, mais il n'avait jamais eu ça.
D'accord.
Il n'avait jamais vu un chercheur venir 2 ans avant lui proposer une coopération et de façon qu'ensemble, on chemine, moi, sur ma responsabilité qui est le développement d'un produit nouveau et eux sur leur responsabilité qui est l'assurance que ce produit nouveau a les meilleures chances de réussir.
Et donc, pour le Conseil consultatif national d'éthique, comment ont-ils réagi lorsque vous avez présenté votre projet ?
Il y a plusieurs étapes, si vous voulez, en tout état de cause. Le jour où on passera chez l'homme, on réanimera les demandes et les démarches qui ont été faites par écrit. Et je dirais, on n'en est pas là, puisque ce n'est pas demain qu'on va l'implanter. Et le Conseil national d'éthique ou le Conseil local d'éthique, parce que maintenant ça se passe à l'intérieur des hôpitaux de Paris, dans certains conseils, est déjà au courant premièrement. Et deuxièmement, demandera à ce moment-là de faire le point sur la manière dont on va s'y prendre. Alors c'est un peu tôt, mais on le mettra au courant régulièrement. Mais pour l'instant, on est surtout en train de travailler avec ce qu'on appelle l'APSAP, c'est-à-dire l'Agence des médicaments.
Aujourd'hui, vous avez une équipe de combien de personnes qui travaillent avec vous ?
Il y a 2 équipes, en fait,
oui,
qui n'en font qu'une. Il y a l'équipe d'ingénieurs, et ça, c'est 1 20aine de personnes. Équipe qui s'est constituée maintenant en une société, qu'on appelle la société Karmat, parce qu'il était nécessaire pour faire le modèle implantable chez l'homme d'avoir une sorte de société capable de faire un produit de qualité industrielle. Et par conséquent, maintenant, c'est une société dans laquelle je suis directeur médical, mais dans laquelle j'ai refusé, pour des raisons éthiques précisément, de rentrer. Je ne participe pas ni à l'organisation, ni aux intérêts de... Donc, je suis directeur scientifique, c'est
d'accord.
Tout, bénévole, et voilà.
Parce que Karmat, ça porte en partie votre nom. C'est Car pour Carpentier et Mat pour Matra.
Ouais, Carpentier, ça veut dire Carpentier Matra. Ils ont gardé le nom. Ils ont gardé le nom. Vous pouvez difficilement faire autrement, d'ailleurs. Voilà, donc...
Ça, c'est la première équipe.
Alors ça, c'est la première équipe. Et la deuxième équipe, c'est l'équipe de l'hôpital européen Georges Pompidou.
Où vous travaillez.
Qui est dirigée actuellement par mon successeur, le professeur Fabiani. Mais évidemment, c'est moi qui l'amène pour ce projet-là. Et qui est au moins aussi importante que la première. Parce que c'est elle qui va être chargée de définir quels sont les profils des malades, de suivre les malades, de les entourer, de les environner, de préciser ce qu'on appelle les indications.
Et alors aujourd'hui, comment vous vous définiriez ? Comme chirurgien, comme inventeur ?
Je me définirais surtout pas par des grands mots. Je me définirais comme un médecin qui fait son travail. Et son travail est double, c'est de traiter des malades et de se donner les moyens pour les traiter. En particulier quand ces moyens n'existent pas, c'est-à-dire en effet d'être à ce moment-là novateur.
Mais ce n'est quand même pas tout le monde, tous les chirurgiens, tous les médecins qui arrivent à concevoir, à faire des prototypes et à concevoir
J'ai cette chance d'avoir quelques idées, comme disait un certain nombre de gens éminents. C'est le riche qui disait, j'ai la chance dans ma vie d'avoir quelques idées qui sont tombées dans le domaine public. Alors celle-là, elle n'est pas encore tombée dans le domaine public, mais le jour où elle tombera dans le domaine public et on m'oubliera, ça consacrera le succès de l'opération.
Alors aujourd'hui, le cœur artificiel, demain, quels sont vos projets ?
Ah ben, écoutez, ce projet-là suffit d'occuper mes jours et mes nuits. Alors pour l'instant, procédons par étapes.
Je vous remercie, professeur Carpentier, de nous avoir donné des détails sur cette question très passionnante et ambitieuse et complètement folle du cœur artificiel. Et j'imagine que vous allez de nouveau communiquer sur ce cœur artificiel prochainement.
Vous n'arriverez pas à me faire sortir une date.
Eh bien, je vous remercie, professeur Carpentier. Et alors, je vous dis à une prochaine fois. Pour une prochaine communication. Merci.